Radio Barque 36e, notre invitée aujourd'hui c'est Catherine Bossis, dont je rappelais en début d'émission qu'elle est conseillère municipale d'opposition, membre du Parti Socialiste sur Narbonne, et élue départementale, donc conseillère départementale, puisqu'on ne dit plus conseiller général depuis quelque temps, et chargée notamment pour sa délégation de l'enfance et de l'insertion professionnelle. Alors vous êtes, on va commencer par là rapidement, sur le département. Michel, tout à l'heure, Michel Santo a bien évoqué le cas Viola. Vous, vous êtes concerné. Je ne dis pas que c'est confortable pour vous, mais comment allez-vous vous comporter ?
Alors, c'est vrai que non, ce n'est pas confortable. Bon, on a assisté à une bérésina au niveau politique pour le PS, c'est clair. Aujourd'hui, André Viola, qui a été battu aux législatives, demande à ce que son groupe majoritaire renouvelle sa confiance. Donc tout à l'heure, il y a une petite erreur qui a été commise par Michel. Mmh. Il ne s'agit pas de procéder à une réélection du président du conseil départemental, mais simplement de lui renouveler notre confiance dans le mandat
C'est une motion de confiance ?
C'est une motion de confiance. Alors, ça n'empêche pas qu'évidemment, lors du groupe majoritaire, la parole sera libre et que les uns et les autres nous diront ce que nous avons à dire, à la fois sur les résultats au niveau national, mais évidemment les résultats au niveau locaux. Et bien sûr, ça va nous inciter, en tous les cas pour le Parti socialiste, à réfléchir à la suite, y compris au niveau local.
Mais remarquons aussi au passage que André Viola avait manqué un petit peu, disons, de classe et de tolérance lorsque les deux conseillers d'opposition, qui sont deux contre une trentaine, avaient demandé d'obtenir l'autorisation de faire un groupe avec le personnel qui va avec, et ils s'étaient fait renvoyer dans les cordes de façon un peu abrupte.
Alors c'est pas faux, c'est vrai que là aussi il y a matière à réflexion. Je pense qu'il faut sortir de cet esprit un peu clanique
et hégémonique
du PS. De toute façon, les résultats nous incitent à la plus grande humilité. C'est le moins qu'on puisse dire.
D'autant que si tu permets, Catherine, les personnes considérées, je parle d'Henri Martin et sa suppléante, avaient joué, je dirais, le rôle de la République en marche à l'aglo, en fait, en faisant élire en fait à la présidence de cette aglo Jacques Bascou.
Monsieur Bascou.
Donc c'est vrai que le renvoi d'ascenseur
avait été minable. Oui.
Tout à fait. Et au département, d'ailleurs, ils sont assez constructifs puisqu'ils ont voté avec la majorité le budget du département.
Oui.
Donc je le souligne.
Raison
de plus, effectivement.
Alors revenons-en quand même à la raison pour laquelle vous êtes élu. Le département, c'est du social. Alors social, ça veut dire beaucoup de choses. Vous vous occupez, Catherine Bossis, de l'enfance. Alors, expliquez-nous ce que vous faites et à quoi ça sert. Quelles structures sont au service du public ?
Alors, en fait, au niveau de l'enfance, il y a deux volets. Le premier volet, c'est la PMI, donc la protection maternelle et infantile. Donc là, notre rôle, c'est un rôle de prévention sur à la fois le suivi des femmes enceintes et puis sur le suivi des nourrissons et des enfants jusqu'à l'âge de 6 ans. Donc il y a des visites de l'ensemble des enfants qui sont en moyenne section de maternelle. Nous procédons à des vaccinations. Nous remplissons aussi un rôle important face à la désertification médicale, puisque actuellement sur la Haute-Vallée, les seules consultations pédiatriques et voire même le suivi de grossesse est fait par nos services de PMI. Donc nous remplissons ce rôle-là. Donc ça, c'est le premier volet, le volet prévention sur la petite enfance. Et puis le second volet, c'est l'aide sociale à l'enfance. Donc le département a pour charge de s'occuper de l'enfance en danger, ce qu'on appelle communément l'enfance en danger, c'est-à-dire les enfants qui nous sont confiés par un juge parce que dans leur famille, il y a une situation de danger.
Ou de maltraitance, ou chose comme ça.
Pas forcément de maltraitance, mais en tous les cas, il y a eu des informations préoccupantes sur la situation de ces enfants. Alors ça peut être effectivement de la maltraitance, mais aussi une certaine forme de délaissement de la part des parents. Donc là, le rôle du département, c'est effectivement d'accompagner les familles, d'accompagner ces enfants. Alors parfois, on est obligé de les retirer à leur famille. mais pas toujours. Et parfois, il faut simplement accompagner les parents qui ont besoin d'un étayage. Donc, on a des travailleurs sociaux qui sont là pour accompagner ces parents en difficulté dans leur rôle parental. On a aussi parfois des divorces, des séparations qui sont un petit peu houleuses, où les enfants sont malheureusement victimes des conflits. Donc là aussi, on a un rôle de médiation familiale avec des visites qui se font, des visites médiatisées avec des travailleurs sociaux qui sont là pour apaiser les choses et faire en sorte que l'enfant ne soit pas victime collatérale des dysfonctionnements du couple parental.
Voilà, Catherine Bossis, donc l'utilité concrète de certains services sociaux donc du département. Et alors, il y a un problème qui qui s'est envenimé récemment, c'est celui de ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés.
Oui, qu'on appelait précédemment les mineurs étrangers isolés. Effectivement, ce sont...
Qui sont toujours étrangers et isolés, d'ailleurs.
Tout à fait. Donc, ce sont des mineurs qui arrivent sur notre territoire. Alors, évidemment, de façon illégale, on le sait, avec des réseaux,
des filières.
Ces jeunes qui arrivent sur le territoire, dès lors qu'ils sont considérés comme mineurs, ils sont isolés et donc en danger, ils sont confiés à ce titre-là au département service du département de l'aide sociale à l'enfance, qui doit les prendre en charge comme tout enfant en situation de danger.
Et il semble qu'il y ait une recrudescence récente.
Alors, je n'irai pas jusque-là. Effectivement, on a une augmentation, mais cette augmentation, elle est sur l'ensemble du territoire de mineurs étrangers isolés, puisqu'il y a des filières.
Mais est-ce que ce sont des filières spécifiques pour enfants ou ils arrivent avec d'autres migrants ?
Alors, ils arrivent avec d'autres migrants. Et puis ensuite, effectivement, le fait d'être mineur fait qu'ils vont avoir des parcours un petit peu spécifiques par rapport aux majeurs. Alors, ces mineurs, pour ce qui est de l'Aude, arrivent plutôt d'Afrique subsaharienne, mais sur d'autres départements, vous avez plutôt des mineurs qui arrivent de Syrie, d'Afghanistan, voilà.
Mais c'est une répartition qui est faite par la France ou eux, ils viennent dans l'Aude directement ?
Alors,
c'est curieux, ça. Pourquoi des gens d'Afrique subsaharienne dans l'Aude et puis d'autres nationalités ailleurs ?
Alors là, clairement, ce sont les filières. Donc, on en discute régulièrement avec les services de la PAF et de la préfecture. Il y a des filières qui sont clairement identifiées et donc qui font que les afflux sur le département sont plutôt des afflux en provenance d'Afrique noire.
Et alors, vous êtes également en charge, c'est votre délégation, de l'insertion professionnelle. Quel est le rôle, justement ? On pensait que la formation professionnelle et l'économie, toutes ces choses-là, c'était plutôt la région, mais le département joue un rôle encore là-dedans.
Alors, le département joue un rôle, évidemment, puisque nous versons le RSA et qu'à ce titre-là, nous avons aussi, puisque ça a été la réforme entre le RMI et le RSA, l'idée d'introduire pour les bénéficiaires une réinsertion professionnelle. Et donc, il y a un accompagnement de nos services et puis de multiples partenaires, notamment de tout ce qui est insertion par l'activité économique, pour permettre aux bénéficiaires du RSA de retrouver la voie de l'insertion professionnelle. Alors, on ne parle plus aujourd'hui...
C'est un problème finalement assez ancien et peu résolu, parce que RMI, ça voulait dire revenu minimum d'insertion, si je ne me trompe.
Oui. Sauf qu'aujourd'hui, on a compris, et ça c'est une bonne chose, que l'insertion professionnelle, elle doit s'envisager de façon globale, c'est-à-dire qu'il faut traiter à la fois les problèmes de formation, de logement et de mobilité. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas mobile, clairement, elle ne pourra pas aller sur son lieu de travail. Donc il faut travailler l'insertion et l'inclusion dans sa globalité. Et c'est ce que nous faisons avec les différents partenaires avec lesquels nous travaillons aujourd'hui.
Oui, pouvez-vous être un peu plus concrète à ce niveau-là, donner un ou deux exemples ?
Très simplement, une personne qui aujourd'hui est au RSA, qui n'a pas le permis de conduire, avec un RSA, clairement, c'est extrêmement difficile. Le coût d'un permis de conduire, c'est autour de 1 500 euros. Quand vous avez une allocation de 450 euros par mois, ça devient extrêmement compliqué de financer un permis de conduire. Donc, nous les accompagnons. Et puis, à financer le permis de conduire.
À quelle hauteur ?
Parfois, on peut financer l'intégralité du permis de conduire. Voilà. Si le frein, c'est la mobilité et la nécessité d'avoir un permis de conduire pour accéder à l'emploi, il faut les accompagner sur ce volet-là. Ça peut être aussi un problème de garde d'enfants. Là aussi, on travaille en partenariat avec les collectivités pour avoir des places réservées en crèche aux personnes qui sont en situation d'insertion, pour leur permettre effectivement de confier leurs enfants quelques jours par semaine, parfois même des demi-journées, de façon à pouvoir soit entreprendre une formation, soit faire des démarches d'insertion.
Oui, donc voilà des cas tout à fait concrets de la façon dont les choses se passent. Michel, une remarque ?
Oui, mais c'est très effectivement différent de l'époque où Rocard a mis en place le RMI, parce qu'il y avait le volet insertion, mais comme on était en période encore relativement croissance et qu'on n'avait pas le taux de chômage d'aujourd'hui, le volet insertion n'avait jamais été géré de manière parfaitement cohérente et globale, comme vient de signaler à l'instant Catherine. Dès lors qu'effectivement on est dans une phase de décroissance de l'emploi, enfin en tout cas d'une moindre croissance, forcément la population augmentant, et comme le marché ne produit pas nécessairement l'adéquation avec ce genre de personnes en difficulté, ben il fallait bien effectivement mettre en place tout un parcours et toute une structuration qui englobe tous les aspects sociaux, y compris d'ailleurs médical, parce qu'il y a aussi des problèmes psychosociaux qui se posent dans beaucoup de cas qui sont en RSA.
Et alors justement, Catherine Bossis, est-ce que tous les gens qui perçoivent le RSA jouent le jeu, ont envie de se réinsérer?
Alors, avec la mise en place du RSA, les bénéficiaires sont soumis à un contrat d'insertion. Et effectivement, chaque mois, il y a des commissions qui se réunissent. Et les bénéficiaires qui ne répondent pas à leurs obligations voient leur allocation suspendue, réduite, voire même complètement supprimée. Donc effectivement, il y a un véritable travail de contrôle et d'obligation. On est vraiment... il y a des droits, mais il y a aussi, face à ces droits, des obligations. Donc on a renforcé ces contrôles. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que chaque mois, il y a des décisions de suspension partielle, voire totale, de l'allocation.
Combien de personnes dans l'Aude perçoivent le RSA ?
Environ 18 000 personnes.
Oui, c'est ce qui fait quand même du monde sur un département de moins de 350 000.
C'est un peu plus que la ville de Lézignan.
Oui, c'est presque deux fois la ville de Lézignan. Alors Catherine Bossis, revenons aussi à vos responsabilités politiques, puisque je disais tout à l'heure, vous êtes membre du Parti Socialiste. Alors d'abord, vous, êtes-vous fidèle au Parti Socialiste, puisqu'un certain nombre ont quitté le navire récemment?
Alors effectivement, je suis restée fidèle à mon engagement, d'abord parce que cet engagement, enfin, je pense qu'il y a vraiment une voie. Pour moi, le Parti Socialiste, c'est à la fois l'alliance entre les libertés individuelles et collectives, et puis le progrès social, la réduction des inégalités. Et je pense que cette alliance, elle est très moderne, elle est nécessaire aujourd'hui. Et cette voie-là, c'est ma famille politique, c'est mon histoire. Et je ne vois pas pourquoi j'irais voir ailleurs. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une fenêtre pour cette voie sociodémocrate. Il y a une fenêtre et il y a un engagement à porter.
Alors vous avez prononcé le mot sociodémocrate parce que j'allais vous poser la question. Quel socialiste ? Et on a vu avec Monsieur Hollande qu'il y avait effectivement du côté Valls et d'autres des sociodémocrates, puis qu'il y avait des fondeurs, des gens qui sont parfois pratiquement encore marxistes, réunis dans un même parti qui a fini par exploser. Donc vous, votre tendance, c'est la social-démocratie.
Tout à fait. Alors effectivement, je pense qu'on a aujourd'hui la situation du PS est liée à son manque de choix, en tous les cas de clarté sur sa ligne politique. Cette clarté, il va falloir la poser.
Oui, ça a été un parti attrape-tout pendant pas mal de temps.
Il va falloir la poser. Alors c'est vrai que c'était aussi la richesse, a longtemps été la richesse du Parti Socialiste, d'avoir ses différents courants, ses différentes
sensibilités.
À condition que la discipline règne. Aujourd'hui, on en voit les limites.
Et surtout, Jean-Claude, que cette discipline soit imposée par un homme de synthèse. Or, c'est ça le problème du PS jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'indépendamment de la ligne social-démocrate, il n'y a pas d'homme ou de femme, pardon, en situation d'aujourd'hui, quoi, de faire la synthèse. Le résultat politique de ce moment-ci, en fait, le met en évidence. Mitterrand a été capable, effectivement, de tenir à la fois le Parti radical de gauche, M. Fabre et M. Marché, en fait. Y compris en fait en son sein, je rappelle quand même que Mitterrand a été élu grâce à l'apport du CRS qui était dans la gauche, effectivement de la gauche au sein du PS, mais que là, à l'évidence, quand on est au gouvernement, et qu'on est en capacité de gérer les affaires, là où effectivement il n'y a pas de ligne, ni de congrès permanent à régler, ni de synthèse à faire entre différents groupes politiques, il s'agit de gérer le pays. Là, effectivement, après les 5 ans qui viennent de se passer, l'homme de synthèse qu'il fut, François Hollande, a été désintégré en plein vol par ses propres amis politiques et donc son électorat.
Ouais. Alors Catherine Bossis, comment voyez-vous justement l'avenir, alors à Narbonne, puisque vous êtes à Narbonne, de la social-démocratie qui sera peut-être le futur parti socialiste?
Alors là, c'est je ne représente pas à moi toute seule la section, du PSC.
Mais vous avez vos opinions.
Alors je pense que de toute façon, il va falloir reconstruire sur ce qui va
sur une clarté de ligne.
Sur une clarté de ligne et de direction. Mais ça, c'est quelque chose qui se fera au national. Et puis après, il va falloir aussi remobiliser les militants qui, pour certains, effectivement, ont rejoint En Marche et pour d'autres, ont rejoint le courant de Jean-Luc Mélenchon. Donc moi, je pense...
Vous pensez en récupérer ?
Je pense que si on est clair... Alors ceux qui sont partis chez Jean-Luc Mélenchon, l'aile gauche...
Oui, ceux-là, peut-être pas.
Peut-être pas, mais... Je pense quand même que... Alors il y a une fenêtre pour la social-démocratie. Certes, elle est étroite, effectivement, puisque Macron a été extrêmement habile et a emmené avec lui une partie des sociaux-démocrates qui étaient auparavant au PS, c'est clair. Mais néanmoins...
Ce qui prouve qu'il y avait de la place pour ça en France, peut-être.
Ah, c'est clair que ce mouvement-là, il existe, il est porté. Alors... J'aurais souhaité que ce soit le Parti socialiste qui le porte. Malheureusement, pour le Parti socialiste, c'est La République en marche qui l'a porté. Néanmoins, dans le positionnement qui est défendu par Emmanuel Macron, qui est un positionnement et de droite et de gauche, pour le moment, je vois bien le positionnement et de droite, le positionnement et de gauche, un petit peu moins. Je vous donnerai un exemple sur la réforme du droit du travail qui va être proposée. L'idée, c'est d'aller évidemment vers plus de flexi-sécurité, un petit peu comme font les pays du Nord. Sur la flexibilité, bien évidemment, il faut permettre cette flexibilité pour les entreprises. Elle est nécessaire. Néanmoins, ça ne peut fonctionner que si on a le volet sécurité. Et pour le moment, je reste un petit peu sur ma faim, sur ce volet sécurité. Voilà, par exemple, ce qui peut me différencier du programme proposé par Emmanuel Macron.
Mais la loi El Khomri, telle qu'elle était passée ou telle qu'elle a été imposée, vous l'acceptiez ?
Il y avait effectivement de nombreuses choses avec lesquelles j'étais en accord sur la loi El Khomri, notamment sur le parcours de protection, les droits attachés à la personne, où là, je trouvais qu'il y avait vraiment un progrès important. Ce qui m'a gênée, c'est la façon dont cette loi a été portée. D'abord, elle est arrivée à un mauvais moment. C'était trop tard dans la mandature. Et puis, en passant avec le 49-3, c'était évidemment pas la meilleure façon... d'avoir une adhésion importante.
Et vous pensez qu'elle serait passée s'il n'y avait pas eu l'usage du 49-3 ?
Bien sûr que non.
Michel a donné son point de vue.
Il n'avait pas le choix. C'était l'abandon à race campagne. C'était alors là, c'était carrément en fait une humiliation totale en fait, du gouvernement. Il n'avait aucune chance. Bon, hein. Et bon, donc il fallait aller jusqu'au bout, passer un compromis. Et la CFDT l'a accepté. C'était un courant à gauche. Quoi.
Bon, mais et Catherine Bossis, qu'est-ce qu'elle en pense ? Est-ce que vous pensez que sans le 49-3, elle ne serait pas passée ?
Non, ça aurait été effectivement difficile. Mais parce que, effectivement, là, je pense qu'on a eu un problème de calendrier.
Parce que ça venait trop tard.
Ça venait trop tard. Et puis, je pense que la consultation, notamment avec les partenaires sociaux, n'a pas été suffisante. Et que, du coup, on s'est retrouvé un petit peu pris dans la nasse et obligé de passer avec le 49-3 qui.
Oui, jusqu'à ce que la CFDT, quand même, accepte.
Bien sûr, elle a accepté. Parce que les partenaires sociaux, il n'y a pas que la CGT, effectivement. Il y a aussi la CFDT qui, d'entrée de jeu, a dit moi, je joue le jeu, on va négocier. Et ils étaient arrivés, effectivement, à un accord. Donc les partenaires sociaux, d'une certaine manière, avaient joué le jeu, à part faux, bien sûr, et la CGT qui, par principe, sont contre ce genre de proposition. Mais là, ça va être pire, parce que là, ça va être pas 49-3. Mais une ordonnance.
Oui, une ordonnance.
Oui. Et clairement annoncée pendant la campagne.
Oui, absolument. Donc là, il n'y aura pas de prise par surprise, en quelque sorte. Pour conclure, Catherine Bossis, eh bien, sur Narbonne, comment vous voyez, puisque Michel Santo a évoqué tout à l'heure les futures municipalités, et ne dites pas que vous vous en fichez, on ne vous croirait pas. À la lumière de cette nouvelle situation, comment le voyez-vous aujourd'hui? On est en 2017.
Alors, il va falloir construire un collectif pour aller la gagner, cette mairie. Ce collectif, évidemment, ça ne peut pas être le collectif autour d'un camp. Il va falloir construire un collectif large autour d'un projet. Et moi, je pense que ce qui va fédérer l'équipe qui pourra éventuellement reprendre la mairie à l'équipe actuelle, c'est le projet qu'elle va construire. Et puis, être dans une démarche, œcuménique, ouverte.
Mais l'association J'aime Narbonne n'a pas cette vocation aujourd'hui ?
Elle l'a, elle l'a tout à fait. L'idée effectivement de cette association, c'était d'avoir quelque chose de transparti avec des adhérents venant d'univers politiques différents, avec des sensibilités différentes. Alors, comme vous l'aviez dit, je suis socialiste, c'est mon histoire, elle est singulière, mais c'est pas parce que c'est mon histoire que je ne vais pas accepter les identités d'autres avec aussi des histoires singulières. Et c'est cette association autour d'un projet, et j'en reviens là-dessus, c'est vraiment le projet qui sera fédérateur. Il y a un collectif qui va se construire, et c'est ce collectif-là qui, à mon avis, pourra être en mesure de reprendre la mairie.
Eh bien, merci Catherine Bossis. Il n'y aura pas de projet de salle multimodale dans votre projet ?
Pas tel qu'il est porté aujourd'hui.
En tout cas, merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes conseillère municipale d'opposition, socialiste à Narbonne aujourd'hui, et également une des vice-présidentes du conseil départemental. Vous avez évoqué avec nous, Catherine Bossis, vos délégations, à savoir l'enfance et l'insertion professionnelle. Merci. Pour conclure, et très symboliquement, le prochain week-end, pour conclure cette saison de Radio Barque, eh bien, nous retrouverons le nouveau député de la deuxième circo de Narbonne.
De la République en marche. Alain Perea. Nous ne manquerons pas d'évoquer les problèmes, notamment des municipales à venir.
Voilà. Et du futur travail du député pour
aussi,
l'été.
Aussi.
Aussi. Ouais. Et du rassemblement à venir.
Merci, à la semaine
prochaine.
Merci
à vous.